Chapitre 43. Leg Hunt n'avait jamais vu agoniser personne avant cela. Le dernier jour et la dernière nuit qu'il passa au chevet de Keats, pour lui c'était toujours Joseph Severn, mais il avait acquis la certitude que le mourant se prenait vraiment pour John Keats, comptèrent parmi les plus pénibles de son existence. Les hémorragies se succédaient de plus en plus rapidement. Entre deux spasmes, Hunt entendait les râles stertoreux qui montaient dans la poitrine et la gorge du petit homme en train de lutter pour s'accrocher à la vie. Assis à côté du lit, dans la chambre exiguë de la Piazza d'Espagne, Hunt écouta le poète qui délirait tandis que l'aube se transformait en matin, puis en début d'après-midi. Keats était brûlant de fièvre. Il ne cessait de perdre puis de reprendre conscience, mais insistait pour que Hunt écoute et note tout ce qu'il disait. Ils avaient trouvé de l'encre, un porte-plume et du papier ministre dans l'autre chambre, et Hunt faisait ce qui lui était demandé, écrivant à toute vitesse pendant que le cybride agonisant délirait sur la métasphère et les divinités perdues, la responsabilité des poètes, la chute des dieux ou les guerres miltoniennes qui ravageaient le technocentre. Hunt avait alors relevé la tête pour demander, en saisissant la main brûlante de Keats,
« Où se trouve le centre, Keats? Dites-moi où il se trouve !»
Le mourant s'était mis à transpirer à grosses gouttes et avait détourné le visage.
« Ne soufflez pas sur moi, votre haleine est comme de la glace. »« Le centre !»
répéta Hunt en se penchant en arrière et en refoulant les larmes de pitié et de frustration.
« Où est le technocentre, Keats ?»
Le poète sourit. Sa tête ne cessait d'aller d'avant en arrière sous l'effet de la souffrance. Les efforts qu'il faisait pour respirer évoquaient le bruit de l'air à travers un soufflet percé.
« Comme des araignées dans leur toile, » murmura-t-il. « Des araignées dans leur raie, dans le rets que nous avons tissé pour elles. » et qui nous paralyse pour nous vider de notre sang, comme des mouches capturées par des araignées au milieu de leur toile. »
Hunt cessa d'écrire pour écouter ces mots apparemment incohérents. Mais il comprit subitement.
« Mon Dieu » chuchota-t-il. « Ils sont à l'intérieur du réseau d'Istrans. »
Keats essaya de se redresser, agrippant le bras de Hunt avec une force terrible.
« Dites-le à Gladstone, Hunt, qu'elle déchire les toiles, qu'elle les nettoie. Les araignées dans la toile, le dieu humain et le dieu des machines, doivent s'unir. Mais pas moi! Non, pas moi !»
Il laissa sa tête retomber en arrière sur l'oreiller et se mit à pleurer sans bruit. Il s'endormit bientôt pour ne se réveiller que partiellement tout au long de l'après-midi. Hunt savait qu'il était plus près de la mort que du sommeil. Le moindre bruit le faisait tressaillir, et il avait alors du mal à respirer. Vers la fin de l'après-midi, il était trop faible pour expectorer, et Hunt devait l'aider en lui penchant la tête vers la cuvette pour que la simple gravité le libère des mucosités sanglantes qui l'encombraient. À plusieurs reprises, pendant que Keats dormait d'un sommeil agité, Hunt se leva pour regarder par la fenêtre. Il descendit même une fois jusqu'à la porte d'entrée pour scruter la piazza. Dans l'ombre des maisons, près du grand escalier, se dessinait une ombre haute, plus noire que le reste, hérissée de piquants. Dans la soirée, Hunt s'assoupit sur sa chaise au chevet de Keats. Il rêva qu'il tombait d'une hauteur vertigineuse et mit les mains en avant pour se protéger, puis se réveilla en sursaut et s'aperçut que Keats avait les yeux ouverts et le regardait.
« Avez-vous déjà vu quelqu'un mourir ?»
lui demanda le poète entre deux râles sans force.
« Non. »
Le regard de Keats était étrange, comme s'il voyait quelqu'un d'autre à la place de Hunt.
« J'ai pitié de vous, » lui dit le poète. « Dans quel tracas et danger ne vous êtes-vous pas mis pour moi ? Devez garder votre sang-froid. Cela ne durera pas longtemps. »
Hunt était frappé non seulement par le courage plein de sollicitude que dénotait cette remarque, mais aussi par le soudain changement d'idiome, car Keats était passé de la langue standard du Retz à un dialecte beaucoup plus ancien et mélodieux.
« Ne dites pas de bêtises !» fit Hunt avec une énergie et un enthousiasme qu'il était loin de ressentir. « Nous serons partis d'ici avant l'aube. Je sortirai dès la nuit tombée pour me mettre à la recherche d'une porte d'istrance. »
Keats secoua la tête.
« Le Gritch vous prendra. Il ne permettra à personne de me venir en aide. Son rôle est de veiller à ce que je n'échappe à moi-même que par moi-même. »
Il ferma les paupières et sa respiration devint encore plus saccadée.
« Je ne comprends pas !»
murmura Leigh Hunt en lui prenant la main. Il supposait qu'il délirait encore sous l'effet de la fièvre, mais c'était l'un des rares moments depuis 2 jours où Keats semblait totalement conscient et Hunt pensait que cela valait la peine de faire un effort pour communiquer.
« Que voulez-vous dire par n'échapper à vous-même que par vous-même »
demanda-t-il. Les yeux de Keats se rouvrirent. Ses pupilles couleur noisette étaient bien trop brillantes.
« Humon, essaie de me faire échapper à moi-même en acceptant la divinité, Hunt. Ils veulent me faire servir d'appât pour la capture de la baleine blanche ou de miel pour attirer la mouche ultime. Leur empathie en fuite se réfugierait en moi. En moi, Mr. John Keats, pas plus haut que 5 pieds, afin que la réconciliation se fasse. Vous saisissez ?
Quelle réconciliation ?
Hunt se pencha plus près en essayant de ne pas diriger son haleine vers lui. Keats semblait s'être ratatiné sous les couvertures en désordre, mais la chaleur qui irradiait emplissait toute la chambre. Son visage formait un ovale très pâle dans la lumière mourante. Hunt avait vaguement conscience de la présence d'un faible rayon de clarté dorée qui se déplaçait jusqu'à la jonction du mur et du plafond, mais les yeux de Keats ne quittaient pas cette dernière tache de soleil.
« La réconciliation de l'homme et de la machine, du créateur et de la créature. »
Keats s'interrompit pour tousser et ne se calma que lorsqu'il eut craché un long filet de mucosité sanguinolente dans la cuvette que tenait Hunt. Il laissa retomber sa tête en arrière sur l'oreiller pour reprendre son souffle et continua au bout d'un moment d'une voix à peine audible.
« La réconciliation de l'humanité avec les races qu'elle a cherché à exterminer. La réconciliation du technocentre avec l'humanité qu'il a voulu anéantir. La réconciliation du dieu de l'espace qui lie avec ses ancêtres qui ont essayé de l'évincer. »
Cessant d'écrire, Hunt secoua la tête.
« Je n'y comprends rien. Vous pourriez devenir ce messie, rien qu'en quittant votre lit de mort. »
L'ovale blême du visage de Keats se déplaça d'avant en arrière, sur l'oreiller, en un mouvement qui aurait pu passer pour un ersatz de rire.
Nous aurions tous pu devenir ce messie, Hunt. C'est la plus grande folie et la plus grande fierté de l'humanité. Nous acceptons nos souffrances. Nous frayons la voie à nos enfants. Cela nous a donné le droit de devenir le Dieu dont nous avions rêvé.
Baissant la tête, Hunt s'aperçut que son propre poing était crispé de frustration.
« Si vraiment vous pouvez le faire, si vous pouvez devenir cette entité, faites-le. Sortez-nous de ce pétrin où nous nous trouvons. »
Keats ferma de nouveau les yeux.
« Je ne peux pas. Je ne suis pas celui qui vient, mais celui qui précède. Je ne suis pas le baptisé, mais le baptiste. Merde quoi, je suis athée, Hunt. Severn lui-même n'a pas pu me convaincre de faire de telles choses lorsque je sombrais dans la mort. »
Il agrippa la manche de chemise de Hunt avec une violence qui effraya celui-ci.
« Écrivez !» dit-il.
Hunt reprit le porte-plume et le papier, puis écrivit fébrilement pour ne perdre aucune des paroles que Keats lui dictait à voix basse. une leçon merveilleuse sur ton visage silencieux. Un énorme savoir me transforme en Dieu. Non, exploit, grise légende, événement sinistre, rébellion, majesté, voix souterraine, torture, création et anéantissement, tous ensemble se viennent en foule loger au creux de ma cervelle, me défiant comme si quelque vin joyeux que j'eusse bu ou quelque éclatant et incomparable élixir m'avait rendu immortel. Keats vécut encore 3 heures de souffrance, tel un nageur remontant de temps à autre à la surface de son agonie pour respirer ou murmurer quelques paroles aussi urgentes qu'insensées. À un moment, bien après la tombée de la nuit, il tira Hunt par la manche pour chuchoter d'une voix relativement claire.
« Quand je serai mort, le Gritch vous laissera tranquille. C'est moi qui l'a... Je ne sais pas si vous pourrez rentrer chez vous, mais il ne vous fera rien pendant que vous essaierez. »
De nouveau, juste au moment où Hunt se penchait pour écouter si la respiration bulleuse du poète se faisait toujours, Keats se remit à parler et ne s'arrêta, à l'exception de quelques spasmes, que lorsqu'il eut donné à Hunt des instructions précises sur l'endroit où il désirait être enterré, dans le cimetière protestant de Rome, près de la pyramide de Caius Sestius.
« Il ne faut pas parler ainsi, il ne faut pas parler ainsi !»
grommelait Hunt comme si c'était un mantra en serrant dans les siennes la main brûlante du jeune poète.
« Des fleurs !»
chuchota Keats quelques instants plus tard, peu après que Hunt eut allumé une lampe sur le bureau.
« Des fleurs !»
Les yeux du mourant étaient élargis tandis qu'il contemplait un endroit du plafond, avec un regard d'extase comparable à celui d'un enfant. Hunt leva les yeux et vit que le plafond était décoré de roses jaunes délavées entourées de carrés bleus.
« Des fleurs sur ma tombe !»
répéta Keats entre deux efforts pour respirer. Hunt était à la fenêtre, scrutant les ténèbres qui entouraient l'escalier de la place, lorsque la respiration sifflante de Keats marqua un moment d'arrêt et que le poète appela d'une voix rauque.
« Séverne, soulevez-moi, je meurs !»
Hunt s'assit au bord du lit et lui souleva la tête. Le corps ratatiné pesait moins qu'une plume et dégageait une chaleur incroyable, comme si toute sa substance avait brûlé.
« N'ayez pas peur, » dit-il à Hunt. « Restez calme. Grâce à Dieu, elle vient enfin. »
Les terribles râles se calmèrent un peu. Hunt l'aida à trouver une position un peu plus confortable dans le lit. Puis il alla changer l'eau de la cuvette et mouiller légèrement une serviette. Lorsqu'il revint, Keats était mort. Un peu plus tard, juste après le lever du soleil, Hunt souleva le corps, l'enveloppa d'un drap propre, et sortit dans la cité déserte. La tempête s'était calmée lorsque Brown Lamia atteignit l'extrémité de la vallée. En passant devant les trois caveaux, elle avait aperçu la même lueur irréelle que celle qui était émise par les autres tombeaux, mais avec, en plus, des bruits horribles, comme si des milliers d'âmes se lamentaient en même temps, leurs cris montant des profondeurs de la terre. Elle pressa le pas avec un frisson. Le ciel était dégagé lorsqu'elle arriva devant le palais du Gritch. L'édifice méritait bien son nom. Le demi-dôme s'incurvait vers le haut et vers l'extérieur exactement comme la carapace du monstre. Ses structures de soutien s'incurvaient vers le bas comme des lames fichées dans le sol de la vallée, tandis que les autres arcs-boutants étaient hérissés vers l'extérieur comme les épines du Gritch. Les parois étaient devenues translucides. La lumière intérieure s'était accrue et tout le bâtiment brillait maintenant tel une citrouille de Halloween réduite à l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, la partie supérieure étant aussi écarlate que les yeux du Gritch. Retenant sa respiration, Brown se toucha l'abdomen. Elle était enceinte. Elle le savait déjà avant de quitter l'Usus. N'avait-elle pas plus de devoirs envers son fils ou sa fille à naître qu'envers le vieux poète obscène empalé dans les branches de l'arbre du Gritsch? Elle savait que la réponse était oui et qu'elle n'en tiendrait pourtant pas compte. Expirant lentement, elle se rapprocha du palais du Gritsch. De l'extérieur, l'édifice ne faisait pas plus de 20 mètres de long. Lorsqu'ils avaient exploré la vallée, les autres pèlerins et elle n'avaient vu l'intérieur que comme un espace unique, entièrement vide, à l'exception des supports en forme de lame qui s'entrecroisaient sous le dôme luminescent. À présent, tandis que Brand se tenait à l'entrée, elle voyait l'intérieur comme une étendue plus vaste que la vallée elle-même. Une douzaine de gradins de pierre blanche s'étageaient à perte de vue. Sur chaque niveau, des corps humains gisaient, accoutrés de différentes manières, mais tous reliés au type de câble de dérivation parasite à moitié organique que ses amis lui avaient décrit pour l'avoir vu sur elle. Seuls ces cordons ombilicaux métalliques mais translucides émettaient une lumière rouge. Ils pulsaient régulièrement, comme s'ils transportaient du sang qui était recyclé dans le crâne des corps inanimés. Elle eut un mouvement de recul, causé à la fois par les marées anthropiques et par le spectacle qu'elle avait sous les yeux. Elle recula d'une dizaine de mètres. Vu de l'extérieur, le bâtiment avait toujours la même taille. Elle ne prétendait pas essayer de comprendre comment tous les kilomètres de l'intérieur pouvaient entrer dans une si modeste coquille. Les tombeaux du temps étaient en train de s'ouvrir. Celui-ci, pour autant qu'elle pût le savoir, pouvait coexister en des temps différents. Ce qu'elle comprenait, en tout cas, c'était que lorsqu'elle avait repris conscience, après avoir accompli ses propres voyages sous dérivation, elle avait vu l'arbre aux épines, et que celui-ci était relié par des tuyaux et des lianes d'énergie normalement invisibles, mais qui conduisaient de toute évidence au palais du Gritsch. Elle se rapprocha de l'entrée. Le Gritsch attendait à l'intérieur. Sa carapace, habituellement luisante, paraissait maintenant d'un noir intense sur lequel la lumière ne se reflétait pas. Brown sentit une montée d'adrénaline. Elle eut l'impulsion de faire volte-face et de se mettre à courir, mais continua cependant d'avancer. L'entrée, derrière elle, sembla disparaître presque totalement. Elle ne demeurait plus visible que sous la forme d'une zone floue au milieu de la lumière uniforme émise par la paroi. Le Gritsch était immobile. Ses yeux rubis brillaient dans les orbites caves de son crâne. Brand s'avança. Ses talons ne faisaient aucun bruit sur le sol de pierre. Le Gritsch se tenait à une dizaine de mètres sur sa droite, là où commençaient les gradins, comme des étals obscènes étagés dans la lumière des hauteurs. Elle ne se faisait aucune illusion. Si le Gritsch sautait sur elle, elle n'aurait jamais le temps de retourner jusqu'à la porte. Mais la créature ne bougeait pas. L'air était imprégné d'une odeur d'ozone à laquelle se mêlaient des effluves douceâtres. Elle continua d'avancer de côté, le dos au mur, scrutant les rangées de corps pour essayer de reconnaître un visage. Chaque pas l'éloignait de l'entrée et donnait plus de chance au Gritsch de lui barrer toute retraite. La créature se tenait toujours immobile comme une sculpture noire au milieu d'un océan de lumière. Les gradins, vus de près, s'étalaient vraiment sur des kilomètres. Des marches de pierre de près d'un mètre de haut chacune rompaient l'alignement horizontal des corps. Après avoir marché durant plusieurs minutes, Brand gravit environ le tiers de l'un des escaliers. Elle put ainsi toucher le corps le plus proche du deuxième gradin et fut soulagée de sentir sous sa main une chair tiède et une poitrine qui se soulevait régulièrement. Mais ce n'était pas Martin Silenus. Elle continua, en s'attendant presque à trouver Durée ou Sol Weintraub, ou même son propre corps parmi ses morts-vivants. Mais, au lieu de cela, elle reconnut un visage qu'elle avait vu sculpté sur la face d'une montagne. C'était celui du roi Billy le Triste, qui gisait, inerte, sur la pierre blanche du cinquième gradin. Ses vêtements royaux étaient maculés et noircis. Le visage morose était, comme celui de tous les autres, crispé sous l'effet d'horribles souffrances intérieures. Trois rangées de corps plus bas se trouvait Martin Silenus. Brand s'agenouilla près du poète, en regardant par-dessus son épaule la tache noire du Gritsch, toujours immobile au pied des rangées de corps. Comme les autres, Silenus paraissait vivant, en proie à une agonie silencieuse, reliée par un orifice crânien à un cordon ombilical qui se fondait, un peu plus loin, dans la pierre blanche de la contremarche suivante. Haletante de terreur, Brand toucha le crâne de Silenus, à l'endroit où le plastique et l'os faisaient jonction. Elle suivit le cordon ombilical sans trouver aucune saillie, jusqu'à l'endroit où il se perdait dans la pierre. Elle sentait des fluides pulser sous ses doigts. « Merde !» murmura-t-elle. Elle se retourna soudain, prise de panique à l'idée que le Gritsch était peut-être venu sans bruit derrière elle et s'apprêtait à la frapper. Mais la silhouette noire était toujours à l'autre bout de la très vaste salle. Elle n'avait absolument rien dans les poches, ni armes, ni outils. Il faudrait qu'elle retourne jusqu'au sphinx pour trouver dans ses affaires quelque chose qui coupe, puis qu'elle ait assez de courage pour revenir ici. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais se résoudre, si elle sortait, à franchir de nouveau la porte. Elle prit une profonde inspiration, leva le bras et abattit le tranchant de sa main de toutes ses forces sur le cordon. Le matériau, qui ressemblait à du plastique souple, était en réalité aussi dur que l'acier. Son bras vibra douloureusement jusqu'à l'épaule. Elle tourna la tête. Le Gritsch s'avançait vers elle, pas à pas, lentement, comme un vieillard qui se promène tranquillement. Elle laissa échapper un cri. Puis elle frappa de nouveau, la paume rigide, le pouce à angle droit. Brand Lamia avait grandi sur l'Usus, sous une gravité de 1,3G standard, et elle avait des muscles d'athlète, même par rapport aux autres Lusiens. Dès l'âge de 9 ans, elle rêvait d'être détective, et elle avait tout fait pour réaliser ce rêve. Son obsession l'avait poussée à pratiquer les arts martiaux. Elle émit un grognement sourd, leva de nouveau le bras et frappa, en se concentrant pour que sa main soit le tranchant d'une hache, en voyant dans sa tête le coup victorieux qui allait sectionner le câble. Le tuyau se rétracta imperceptiblement sous son cou, pulsant comme une créature vivante. Il sembla se rétracter encore plus avant même qu'elle donne le coup suivant. Des pas devinrent audibles derrière elle, plus bas. Elle faillit laisser échapper un rire nerveux. Le Gritsch n'avait pas besoin de marcher pour se déplacer, ni de faire du bruit. Il devait prendre plaisir à effrayer sa proie. Mais Brand n'avait pas peur. Elle était trop occupée. Elle leva de nouveau le bras et abattit la main sur le câble. L'effet était le même que si elle heurtait la pierre. Elle sentit un petit os se briser. La douleur était semblable à un bruit lointain, semblable au frottement qu'elle percevait derrière elle sur le gradin inférieur. T'es-il venu à l'idée, se disait-elle, qu'il te tuera presque sûrement si tu réussis vraiment à sectionner ce truc-là? Elle frappa une nouvelle fois. Les pas s'arrêtèrent à la base du gradin où elle se trouvait. Brand haletait sous l'effort. La sueur ruisselait sur son front, puis dégoulinait sur ses joues et sur le poète inanimé. « Je n'ai même pas de sympathie pour toi », pensa-t-elle à l'adresse de Martin Silenus, tout en abattant encore une fois le tranchant de sa main. C'était comme si elle essayait de sectionner la patte d'un éléphant de métal. Le Gritsch commença à gravir l'escalier du gradin où elle se tenait. Elle se redressa, presque debout, et mit tout le poids de son corps dans un coup qui faillit lui disloquer l'épaule et qui lui cassa le poignet en brisant plusieurs petits os de la main. Le cordon ombilical fut tranché. Un fluide rouge, pas assez visqueux pour être du sang, jaillit contre ses jambes et forma une flaque sur la pierre blanche. Le câble sectionné, toujours noyé dans la pierre, fut agité de spasmes et de soubresauts, comme un tentacule vivant, avant de retomber mollement pour être aspiré entièrement, tel un serpent sanglant blessé à mort, dans le trou de la pierre qui redevint lisse dès que l'opération fut terminée. La partie du cordon reliée à la dérivation crânienne de Silenus se ratatina en quelques secondes, comme une méduse que l'on sort de l'eau. Le visage et les épaules du poète étaient baignés de fluide rouge, mais la couleur de celui-ci vira rapidement au bleu sous le regard de Brown. Les yeux de Martin Silenus tressaillirent comme ceux d'une chouette, puis s'ouvrirent.
« Hé ! » fit-il. « Vous savez que ce putain de Gritch est juste derrière vous ?»
Gladstone se distransporta dans ses appartements privés et se dirigea aussitôt vers la niche Mégatrans où deux messages l'attendaient. Le premier venait de l'espace d'Hyperion. Elle écouta, en battant des paupières, la voix douce du gouverneur général Théolaine qui lui donnait un résumé succinct de l'entretien avec le tribunal Extro. Elle s'assit dans le fauteuil de cuir en portant les deux mains à ses joues, tandis que Lane exposait le démenti catégorique des Extro quant à l'invasion du Retz. La transmission s'acheva sur une brève description de l'essaim. L'opinion de Lane était que les Extro disaient la vérité. Il ajoutait que le sort du consul était incertain et demandait des instructions. « Réponse ?» demanda l'ordinateur Mégatrans.
Accusez réception du message. Et transmettez « Tenez bon » en code diplomatique monopasse.
Puis elle prit connaissance du deuxième message. L'amiral William Ajunta Lee apparut sous la forme d'une image projetée en deux dimensions. De toute évidence, le système Mégatrans de son vaisseau fonctionnait déjà sur énergie réduite. Elle nota, d'après les colonnes de données périphériques, que la salve avait été chiffrée parmi les transmissions télémétriques standards du vaisseau. Les techniciens de la force finiraient par s'apercevoir d'une anomalie dans la somme de contrôle, mais cela pouvait prendre des heures, voire des jours. Le visage de Lee était couvert de sang. Derrière lui, la fumée empêchait de voir quoi que ce fût. Tout ce que l'image floue en noir et blanc apprenait à Gladstone, c'était que le jeune amiral transmettait à partir d'un compartiment d'amarrage de son croiseur et qu'un corps était étendu derrière lui sur une table métallique.
« Un commando de marine a réussi à prendre pied à bord d'un de leurs prétendus lanciers, »
haletait Lee.
« Les occupants de ces engins sont au nombre de 5 et ils ressemblent à des extros. Mais voyez ce que cela donne à l'autopsie. »
L'angle de vue bascula. Et Gladstone se rendit compte que Lee se servait d'un imageur à main raccordé au système Mégatrans du vaisseau. On ne voyait plus l'amiral. L'image montrait le visage blême et déformé d'un extro. D'après le sang autour des yeux et des oreilles, il n'était pas difficile de deviner qu'il était mort des suites d'une décompression brutale. La main de Lee apparut dans le champ, reconnaissable à la ganse qui ornait la manche de son uniforme d'amiral. Elle tenait un scalpel laser. Il ne se donna pas la peine de retirer les vêtements du mort et pratiqua une incision verticale à partir du sternum. La main qui tenait le scalpel s'écarta vivement et la caméra se stabilisa tandis que quelque chose d'étrange se passait sur le corps de l'extro. De larges plaques commencèrent à se consumer sur la poitrine du mort, comme si le laser avait mis le feu aux vêtements. L'uniforme brûla entièrement. Et il devint apparent que la poitrine de l'homme fondait par sections, laissant des creux irréguliers, de plus en plus grands. De chacun de ces creux sortait une lumière si intense que l'imageur portable dut abaisser son seuil de réceptivité. Le crâne fut rapidement atteint à son tour, laissant des images rémanentes sur la projection Mégatrans et sur la rétine de Gladstone. La caméra s'était éloignée avant que le corps eût fini de se consumer, comme pour échapper à la chaleur trop grande. Le visage de Lee revint dans le champ.
« Il s'est passé la même chose avec tous les morts que nous avons trouvés, » dit-il. « Nous n'avons pu capturer aucun extra-vivant. Nous n'avons pas encore découvert le centre de l'essaim. Nous n'avons vu, jusqu'à présent, que des vaisseaux. Et je crois bien que… »
L'image disparut et la colonne de données indiqua que la salve avait été interrompue en cours de transmission.
Réponse.
Gladstone secoua la tête et fit disparaître la niche dans le mur. Elle regarda avec envie le canapé de son bureau, puis s'assit derrière sa table de travail, sachant que si elle fermait les yeux une seule seconde, elle s'endormirait. Cédéptra l'appela alors sur leur fréquence persoque privée pour lui dire que le général Morpurgeot voulait la voir de toute urgence. Le Lusien, aussitôt entré, commença à faire nerveusement les 100 pas.
« Hache présidente, dit-il, je crois comprendre les raisons pour lesquelles vous avez autorisé l'emploi du bâton de la mort. Mais mon devoir est de protester vigoureusement. »
« Pourquoi donc, Arthur ? » demanda-t-elle en l'appelant par son prénom pour la première fois depuis des semaines.
« Parce que nous ne connaissons pas assez bien les effets de ce foutu truc. C'est beaucoup trop dangereux et immoral. »
Elle haussa un sourcil. « La perte de milliards de citoyens dans une guerre d'usure prolongée serait morale, mais l'utilisation de cette arme pour en tuer quelques millions serait immorale ? C'est là la position de la force, Arthur ?»«
C'est la mienne, hache présidente. »
Elle hocha la tête. « J'en prends note. » Mais la décision est prise et sera mise en œuvre. Elle vit son vieil ami se raidir. Avant qu'il pût ouvrir la bouche pour protester, ou plus vraisemblablement donner sa démission, elle ajouta « Voulez-vous vous promener quelques instants avec moi, Arthur ?» Le général de la force ouvrit de grands yeux.
« Nous promener ? Maintenant ? Pourquoi ?»«
Nous avons besoin de prendre un peu d'air. » Sans attendre sa réponse, elle marcha jusqu'à sa porte d'Istrance privée, programma la destination à la main et passa de l'autre côté. Morpurgeot ne tarda pas à traverser à son tour la porte miroitante. Il baissa les yeux pour regarder l'herbe dorée qui lui montait aux genoux et s'étalait à perte de vue jusqu'à l'horizon lointain. Puis il leva la tête vers un ciel safran où des cumulus d'airain se dressaient en spire effilochée. Derrière lui, la porte disparut. Son emplacement n'était plus indiqué que par une colonne de commande d'un mètre de haut, qui était le seul objet fabriqué visible dans l'immensité herbeuse.
« Où diable sommes-nous »
demanda-t-il. Elle cueillit un brin d'herbe et le mâchonna tranquillement.
« Castrop Roxel, répondit-il. « Pas d'infosphère, pas de corps en orbite, pas d'habitation humaine ni méca. Rien du tout. »
Il renifla.
Cet endroit n'est sans doute pas plus sûr que tous ceux où Byron Lamia nous conduisait dans l'espoir d'échapper à la surveillance du centre Meina.
C'est possible, dit-elle. Écoutez ça, Arthur.
Elle lui passa l'enregistrement Persoc des deux communications Mégatrans qu'elle venait de recevoir. Lorsque ce fut fini et que le visage de Lee eut laissé la place à un miroitement vide, Morpurgeot fit quelques pas au milieu des herbes hautes.
« Eh bien ?»
demanda Gladstone en le rattrapant.
« Les corps des extros s'autodétruisent de la même manière que des cybrides. Mais qu'est-ce que ça prouve ? Vous croyez que cet enregistrement suffira à convaincre la Pangermie ou le Sénat que le technocentre est derrière l'invasion ?»
Elle soupira. L'herbe avait un aspect tentant et moelleux. Elle s'imagina en train de s'y endormir d'un sommeil d'où elle n'aurait plus jamais besoin de remonter.
« C'est une preuve suffisante pour nous. « Pour notre groupe, » dit-elle.
Elle n'avait pas besoin de s'expliquer davantage. Depuis l'époque où elle débutait au Sénat, ils s'étaient fait part de leurs soupçons concernant le centre et de leurs espoirs d'échapper un jour à la domination des IA. C'était le sénateur Byron Lamia qui leur servait alors de chef de file, mais beaucoup de choses étaient arrivées depuis ce temps-là. Morpurgeot contempla la steppe dorée que le vent faisait ondoyer. Une curieuse sorte de foudre en boule jouait dans les nuages à l'horizon.
« Et alors ? À quoi cela peut-il nous servir si nous ne savons pas où frapper l'ennemi ?»«
Nous avons encore 3 heures. »
Morpurgeot consulta son persoc.
« 2 heures et 42 minutes. Difficile de s'attendre à un miracle en un temps si court, Meina. »
« Difficile d'espérer autre chose, Arthur. »
répliqua-t-elle sans sourire. Elle toucha la colonne de programmation et la porte s'activa en bourdonnant.
« Que pouvons-nous faire ? » demanda Morpurgeot. « Les techniciens du centre sont en ce moment même en train d'initier nos spécialistes au maniement de ce bâton de la mort. Le vaisseau torche sera prêt à partir dans 1 heure. »
« Nous le ferons exploser là où ses effets ne feront de mal à personne.
Le général s'arrêta net pour la regarder avec de grands yeux.
« De quel putain d'endroit voulez-vous parler ? Ce salaud de Nansen prétend que les effets de l'engin s'exercent jusqu'à 3 années-lumière. Mais comment lui faire confiance ? Qui nous dit qu'en le faisant exploser près d'Hyperion ou n'importe où ailleurs, nous ne condamnons pas toute la race humaine ?»«
J'ai une petite idée, mais j'aimerais la ruminer d'abord en dormant. »«
En dormant ?» grogna Morpurgo.
« J'ai besoin de faire un petit somme. » « Je vous suggère d'ailleurs de m'imiter, Arthur, »
fit Gladstone avant de franchir la porte. Morpurgo grommela une obscénité, rajusta sa casquette, et la suivit la tête haute, le dos raide, le regard braqué devant lui, comme un soldat qui prend sa place devant le peloton d'exécution. Sur la plus haute terrasse d'une montagne en mouvement dans l'espace, à 10 minutes-lumière d'Hyperion, le consul, entouré de 17 extros, était assis à l'intérieur d'un cercle de pierres plates, elle-même entourée d'un cercle plus large de rochers dressés. L'objet des débats était de déterminer si le diplomate continuerait de vivre ou non.
« Vous avez perdu votre femme et votre enfant sur Brescia, »
déclara Librom Genga.
« C'était pendant la guerre entre ce monde et le clan Mosman ?»«
Oui, » répondit le consul. « L'hégémonie croyait que tous les saints participaient à l'attaque. » Je n'ai rien dit pour les détromper.
Mais votre femme et votre enfant ont été tués.
Le consul laissa errer son regard au-delà du cercle de pierre, dans la direction du sommet sur lequel la nuit tombait déjà.
Finissons-en, dit-il. Je ne demande aucune pitié ni faveur à ce tribunal. Je ne revendique aucune circonstance atténuante. J'ai assassiné votre Libromandil et les 3 techniciens qui l'accompagnaient. Je les ai tués avec malveillance et préméditation, dans le seul but d'activer la machine destinée à ouvrir les tombeaux du temps. Tout cela n'a rien à voir avec ma femme et mon enfant. »
Un extra-barbu, qui avait été présenté sous le nom de Nanskok Amnion, s'avança dans le cercle intérieur.
« La machine ne servait à rien, » dit-il. « Elle n'a eu aucun effet. »
Le consul pivota, ouvrit la bouche, puis la referma sans rien dire.
« C'était juste un test, »
fit Librom Genga. D'une voix presque inaudible, le consul balbutia.
« Les tombeaux du temps se sont ouverts. »
« Nous savions exactement à quel moment ils s'ouvriraient, »
déclara Centrab Minmum.
« Nous connaissions le coefficient de détérioration des champs anentropiques. » La machine n'était qu'un test. Votre femme et votre enfant ont été tués par des extros,
ajouta Librom Genga.
L'hégémonie a violé votre planète d'alliance Maui. Vos actions étaient prévisibles compte tenu de certains paramètres. Gladstone tablait là-dessus, mais nous aussi. Il fallait que nous connaissions ces paramètres.
Le consul fit 3 pas. Le dos tourné aux autres.
« Tout ça pour rien, » murmura-t-il.
« Pardon ?»
demanda Librom Genga. Le crâne nu de la grande femme luisait à la lumière des étoiles et à la lueur du soleil que reflétait une agricomète qui passait. Le consul se mit à rire doucement.
« Tout ça pour rien du tout, »
répéta-t-il.
Même mes trahisons n'ont servi à rien. Tout ce que j'ai fait a été inutile.
Centrab Minmum se leva en rajustant ses robes.
Le tribunal a rendu sa sentence, dit-il.
Les 16 autres extros hochèrent la tête. Le consul se tourna brusquement vers eux. Il y avait quelque chose comme de la joie impatiente dans ses traits usés.
« Qu'est-ce que vous attendez ? » demanda-t-il. « Pour l'amour du ciel, finissons-en une bonne fois pour toutes !»
Librom Genga se dressa pour lui faire face.
« Vous êtes condamné à vivre. Condamné à réparer une partie du mal que vous avez fait. »
Le consul tituba, comme s'il avait été giflé.
« Non, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit de...
Le tribunal vous condamne à traverser la période de chaos qui s'annonce, lui dit Nanskok Amnion, et à nous aider à trouver un point de fusionnement entre les familles séparées de l'humanité.
Le consul leva les bras devant son visage, comme pour se protéger d'un coup qu'on voulait lui donner.
« Je ne peux pas, ne veux pas, trop coupable !»
Librom Genga fit trois pas en avant et le saisit par le devant de sa veste d'apparat. Puis elle le secoua sans cérémonie.
« Vous êtes coupable, et c'est précisément pour cette raison que vous devez aider à soulager le monde du chaos à venir. Vous avez contribué à libérer le Gritch. Vous devez maintenant veiller à ce qu'il retourne dans sa cage. La longue réconciliation pourra alors commencer à se faire. »
Elle avait lâché le vêtement du consul, mais celui-ci avait toujours les épaules qui tremblaient. À ce moment, les montagnes se tournèrent vers le soleil et des larmes brillèrent dans les yeux du consul.
« C'est impossible !»
murmura-t-il. Librom Genga lissa la veste froissée du diplomate, puis fit glisser ses longs doigts jusqu'à son épaule.
« Nous avons nos prophètes, nous aussi, » dit-elle. « Les Templiers nous aideront à réensemencer la galaxie. Peu à peu, tous ceux qui ont vécu dans la fiction nommée Hégémonie émergeront des ruines de leur monde asservi par le technocentre pour se joindre à nous dans la vraie exploration, non seulement de l'univers, mais aussi du royaume encore plus grand qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. »
Le consul ne donnait pas l'impression d'avoir entendu ce qu'elle disait. Il se détourna brusquement.
« Le centre vous détruira !»
dit-il sans faire face à aucun des extros.
« Il vous détruira, comme il a détruit l'hégémonie !»
« Oublieriez-vous que votre monde natal a été fondé sur la base d'une solennelle alliance de vie ?»
lui demanda Centrab Minmum. Le consul se tourna vers lui.
C'est une alliance du même genre qui gouverne nos existences et toutes nos actions,
poursuivit Minmum.
Notre but n'est pas seulement de préserver un certain nombre d'espèces de l'ancienne Terre. Il est également de trouver l'unité dans la diversité et de répandre la semence de l'humanité dans d'autres mondes, dans d'autres environnements, tout en respectant comme sacrée la diversité de vie que nous trouverons ailleurs.
Le visage de Librom Genga brillait au soleil, tandis qu'elle ajoutait d'une voix douce.
« L'unité offerte par le centre reposait sur un esclavage abêtissant. La fausse sécurité n'était que stagnation. Quelles grandes idées ont fait évoluer la pensée et la culture humaine depuis l'Égypte ? Vous avez été terraformé en une pâle imitation de l'ancienne Terre,
renchérit Centrab Minmum.
Notre nouvelle ère d'expansion humaine ne prétendra pas terraformer quoi que ce soit. Nous ne rechignerons pas devant les difficultés et nous saluerons les différences. Nous n'obligerons pas l'univers à s'adapter. C'est nous qui nous adapterons.
Nanskok Amnion fit un grand geste en direction des étoiles.
Si l'humanité survit à cette épreuve, notre avenir se trouvera dans les espaces noirs intermédiaires, aussi bien que sur les planètes éclairées par les soleils.
Le consul soupira.
J'ai des amis sur Hyperion,
dit-il.
Puis-je retourner là-bas pour les aider?
Vous le pouvez,
déclara Librom Genga.
Et pour affronter le Gritch?
Demanda le consul.
Pour l'affronter,
fit Centrab Minmum.
Et pour survivre dans l'ère de chaos qui s'annonce.
C'est votre devoir,
murmura Nanskok Amnion. Le consul soupira de nouveau. Il s'écarta avec les autres, tandis qu'une grosse libellule aux ailes formées de capteurs solaires et de peaux diaphanes insensibles au vide et au rayonnement cosmique descendait se poser à proximité du cercle de Stonehenge et ouvrait ses panneaux ventraux pour accueillir le consul. Dans la salle d'hôpital de la maison du gouvernement de Tossétie centrale, le père Paul Duré dormait d'un sommeil superficiel provoqué par les médicaments qu'on lui avait administrés. Il rêvait de flammes et de monde à l'agonie. À part la brève visite de la présidente Gladstone et celle, encore plus brève, de l'évêque Édouard, il était resté seul toute la journée, émergeant continuellement d'une brume de douleur pour y retomber aussitôt. Les médecins avaient demandé qu'on ne le transporte pas ailleurs pendant encore 12 heures, et le Collège des cardinaux, sur Passem, avait fait savoir qu'il acceptait et qu'il souhaitait aux patients une prompte guérison. Les préparatifs de la cérémonie, qui devait avoir lieu dans 24 heures, étaient en cours. Après cette cérémonie, le prêtre jésuite Paul Duré, de Villefranche-sur-Saône, serait le pape Téliard Ier, 487e évêque de Rome, successeur direct du disciple Pierre. Guérissant à toute vitesse, ses chairs se régénérant sous l'impulsion d'un million de directeurs ARN, ses nerfs se reconstituant grâce aux miracles de la médecine moderne, pas assez miraculeuse cependant pour m'épargner d'horribles démangeaisons, se disait-il, le jésuite, dans son lit, songeait à Hyperion, au Gritsch, à sa longue existence et à l'état de confusion dans lequel étaient plongées les affaires de Dieu en ce bas monde. Il finit par se rendormir et vit en rêve le bosquet de Dieu dévoré par les flammes, tandis que la voix authentique de l'arbre-monde le poussait vers la porte d'Istrance. Il rêva également de sa mère et d'une femme nommée Sempha, maintenant morte, qui travaillait à la plantation de Perecebo, aux confins des confins, dans la zone de culture des fibroplastes, à l'est de Port-Romance. Dans ses rêves d'une tristesse fondamentale, Duré eut soudain conscience d'une autre présence. Et ce n'était pas d'une autre présence dans son rêve qu'il s'agissait, mais d'un autre rêveur. Il marchait aux côtés de quelqu'un. L'air était frais, le ciel était d'un bleu émouvant. Au détour d'un virage, un lac apparut devant eux, bordé d'arbres élégants, sur un fond de montagne et de nuages bas qui donnaient à la scène une échelle et une intensité dramatique. Au milieu des eaux calmes comme un miroir, une île semblait flotter. Le lac Windermere, fit le compagnon de Duré. Le jésuite se tourna lentement, le cœur battant d'angoisse à l'idée de ce qu'il allait découvrir. Mais la vue du jeune homme qui venait de parler ne lui inspira aucune crainte. Il était de petite taille et portait une veste démodée avec des boutons de cuir, une large ceinture de cuir, de grosses chaussures, un vieux bonnet de fourrure, un sac à dos usé et un pantalon à la coupe bizarre, rapiécé en plusieurs endroits. Il avait une grande couverture sur l'épaule gauche et un solide bâton de pèlerin à la main droite. Duré s'arrêta, et l'autre l'imita aussitôt, comme si cette pause était la bienvenue. « La colline de Furness et les monts Cumbrian, » fit le jeune homme en désignant, avec son bâton, la région située au-delà du lac. Duré remarqua les boucles auburn qui dépassaient du vieux bonnet, ainsi que les grands yeux noisettes et la petite taille de cet homme. Il se disait qu'il devait rêver tout en pensant « Je ne rêve pas, c'est réel. »«
Qui êtes ? »
Il ne put achever sa question tant son cœur battait fort dans sa poitrine.
« Je m'appelle John, » lui dit son compagnon, et le calme raisonnable de sa voix écarta, dans une certaine mesure, les craintes de Duré.
« Je pense que nous pourrons passer la nuit à Bowness, » reprit le jeune homme. Brand me dit qu'il y a une splendide auberge juste au bord du lac. Duré hocha la tête. Mais il n'avait pas la moindre idée de ce dont il parlait. Le petit homme se pencha en avant et serra le bras du jésuite d'une poigne douce mais insistante.
« Quelqu'un viendra après moi, » dit-il. « Ce ne sera ni l'alpha ni l'oméga, mais ce sera essentiel pour nous montrer la voie. »
Duré hocha stupidement la tête. Une petite brise faisait maintenant ondoyer le lac et leur apportait des senteurs de végétation venues des collines.
Ce quelqu'un sera né très loin d'ici, poursuivit John. Plus loin que tout ce que notre race a connu depuis des siècles. Et votre mission sera la même que la mienne en ce moment. Préparez la voie. Vous ne vivrez pas suffisamment longtemps pour assister à l'enseignement donné par cette personne. Mais votre successeur, oui.
Oui,
fit Paul Durée en écho. C'était tout ce qu'il pouvait dire, car il n'avait plus du tout de salive dans la bouche. Le jeune homme ôta son bonnet, le passa à sa ceinture, et se baissa pour ramasser un galet. Il le lança loin à la surface du lac. Des ondes concentriques se formèrent lentement.
« Zut !
Je voulais le faire ricocher, » dit John. Il se tourna vers Durée. « Quittez cet hôpital et retournez sur Passem le plus vite possible. Vous m'avez bien compris ?» Durée battit des paupières. Cette réplique ne semblait pas appartenir à son rêve.
« Pourquoi ?» demanda-t-il.
« Peu importe. Faites ce que je vous dis. Ne vous laissez retarder par rien. Si vous ne vous mettez pas en route tout de suite, vous n'aurez plus d'autre occasion par la suite. » Durée regarda derrière lui, désorienté, comme s'il envisageait de regagner son lit d'hôpital à pied. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule au jeune homme frêle qui se tenait sur les galets de la rive.
« Et vous ?»
John ramassa une deuxième pierre, la lança et fit la grimace en voyant qu'elle ne ricochait qu'une seule fois avant de disparaître sous le miroir de l'eau. « Je suis heureux ici pour le moment, » dit-il plus pour lui-même que pour Durée. « J'étais vraiment heureux quand j'ai fait ce voyage, » ajouta-t-il. Puis il sembla faire un effort pour sortir de sa rêverie et sourit à Durée. « Qu'est-ce que vous attendez ? Maniez-vous le train, votre sainteté ?» Choqué, amusé et irrité en même temps, Durée ouvrit la bouche pour répliquer, mais se retrouva dans son lit d'hôpital à la maison du gouvernement. Les soignants avaient baissé la lumière pour qu'il puisse dormir. Des pastilles de surveillance étaient fixées à sa peau. Il demeura sans bouger une minute ou deux, souffrant des démangeaisons occasionnées par ses tissus en train de guérir de leur brûlure au troisième degré. Il pensa au rêve qu'il venait de faire, en se disant que ce n'était qu'un songe, et qu'il pouvait dormir encore quelques heures avant que Monsignor, ou plutôt l'évêque Édouard, et les autres n'arrivent pour l'escorter. Il ferma les yeux, et se souvint du visage masculin mais très doux, des yeux noisettes et du dialecte archaïque. Le père Paul Durée, de la Compagnie de Jésus, se redressa alors, descendit péniblement de son lit, chercha ses vêtements, mais ne trouva rien d'autre à porter que le pyjama de papier qu'on lui avait mis à l'hôpital. Il s'entoura les épaules d'une couverture, arracha les pastilles de surveillance et s'éloigna pieds nus avant que les soignants ne soient alertés. Il y avait au bout du couloir une porte d'istrance réservée au corps médical. S'il ne pouvait pas l'utiliser, il en trouverait bien une autre. Leigh Hunt porta le corps de Keats au soleil, au milieu de la Piazza d'Hispania. Il croyait y trouver le Gritch en train de l'attendre. Au lieu de cela, il y avait un cheval. Hunt n'était pas très connaisseur en matière de chevaux, car l'espèce avait totalement disparu à son époque, mais l'animal semblait être le même que celui qui les avait amenés à Rome. Et il était d'autant plus facile à reconnaître qu'il était attelé à la même calèche que Keats appelait Vettura. Hunt déposa le corps sur le siège en le drapant soigneusement dans son linceul. Il marcha à côté de la calèche, la main toujours posée sur le drap, tandis que le cheval commençait à avancer lentement. Avant de mourir, Keats avait demandé à être enterré dans le cimetière protestant qui se trouvait près de la pyramide de Caius Sestius. Hunt se rappelait vaguement qu'ils avaient franchi, en arrivant dans leur singulier équipage, le mur d'Aurélien, mais il aurait été incapable de retrouver son chemin, même si sa vie ou le bon déroulement de l'enterrement de Keats en dépendait. De toute manière, le cheval semblait savoir parfaitement où il allait. Tout en marchant lentement à côté de la calèche, conscient de la pureté de l'air par cette belle journée de printemps et d'une odeur sous-jacente de végétation pourrie, Hunt se demanda tout à coup si le corps n'était pas déjà en train de se décomposer. Il n'était pas très au courant des phénomènes qui accompagnaient la mort et ne désirait d'ailleurs pas en savoir plus. Il donna une tape sur la croupe du cheval pour le faire aller plus vite, mais l'animal s'arrêta, tourna lentement la tête pour lui jeter un regard de reproche et se remit à marcher à la même allure. Ce fut plutôt un léger éclat de lumière aperçu du coin de l'œil qu'un quelconque bruit qui l'alerta. Lorsqu'il se retourna, le Gritch était là. Il suivait la calèche à une quinzaine de mètres, réglant son pas sur celui du cheval, avec une démarche solennelle mais quelque peu comique, levant haut à chaque pas ses genoux hérissés de piquants, tandis que le soleil faisait jeter des éclats à sa carapace, à ses dents de métal et aux lames de son corps. La première impulsion de Hunt fut de tout lâcher et de se mettre à courir. Mais le sens du devoir et celui, plus fort encore, de son impuissance, l'en empêchèrent. Où aurait-il pu fuir? La Piazza d'Hispania était le seul endroit qu'il connaissait, et le Gritch lui barrait la route. Acceptant le monstre comme compagnon de deuil de cet insensé convoi funéraire, Hunt lui tourna le dos et continua de marcher à côté de la calèche, en agrippant la cheville du mort à travers le drap. Du coin de l'œil, pendant tout ce temps, il guettait le moindre signe de présence d'une porte d'Istrance ou d'une quelconque trace de présence humaine ou de technologie postérieure au XIXe siècle. Mais il ne voyait rien. L'illusion qu'il avait de traverser une Rome abandonnée par cette matinée quasi printanière de février 1821 était parfaite. Après avoir gravi une colline distante d'un pâté de maisons de l'escalier de la piazza, le cheval prit une large avenue, puis tourna plusieurs fois dans des ruelles, passant devant les ruines circulaires du Colisée, que Hunt n'eut pas de mal à reconnaître. Lorsque la calèche s'arrêta enfin, Hunt sortit de l'état de semi-assoupissement dans lequel la lente marche l'avait plongé, pour regarder autour de lui. Il se trouvait de l'autre côté d'un monticule de pierre, envahi par la végétation, qu'il supposait être le mur d'Aurélien. Et il y avait effectivement une pyramide basse en vue, mais le cimetière protestant, si c'était bien lui, ressemblait davantage à un pré qu'un cimetière. Des moutons broutaient à l'ombre de quelques cyprès, leurs clochettes tintant étrangement dans l'atmosphère épaisse en train de se réchauffer. Partout, l'herbe croissait à hauteur des genoux au moins. Plissant les yeux, il aperçut quelques pierres tombales disséminées, à moitié invisibles dans l'herbe. Plus près de lui, à quelques centimètres du cou baissé du cheval, s'ouvrait une fosse fraîchement creusée. Le Gritch restait derrière, à une dizaine de mètres de lui, sous les branches des cyprès agitées par la brise. Ses yeux rouges étaient fixés sur la tombe. Hunt contourna le cheval, qui paissait tranquillement, pour se rapprocher de la fosse. Il n'y avait pas de cercueil. Le trou faisait environ 1,20 m de profondeur, et le tas de terre dégageait une odeur d'humus et de fraîcheur moite. Une pelle au long manche était plantée, comme si les fossoyeurs venaient de s'en aller. Une pierre tombale était dressée, mais elle ne portait aucune inscription. Il vit quelque chose briller et se précipita pour trouver le premier objet moderne qu'il eût vu depuis son arrivée sur l'ancienne terre. Un petit stylet laser, du genre de ceux qu'utilisaient les artistes ou les marbriers pour graver des dessins ou des lettres sur les matériaux les plus durs. Tenant le stylet à la main, il se retourna. Il se sentait armé, mais l'idée que ce minuscule outil pût arrêter le Gritch lui semblait ridicule. Il le mit dans la poche de sa chemise et s'occupa d'enterrer Keats. Quelques instants plus tard, la pelle à la main, contemplant la fosse béante où reposait le corps menu entouré de son seul linceul, il essaya de trouver quelque chose à dire. Il avait assisté à d'innombrables funérailles officielles, il avait même écrit quelques-uns des panégyriques prononcés par Gladstone en ces occasions, et les mots n'avaient jamais été pour lui un problème. Mais rien ne venait. Sa seule audience était le Gritch silencieux, toujours dans l'ombre des cyprès, et les moutons dont les clochettes tintaient nerveusement tandis qu'il s'éloignait du monstre pour se rapprocher de la tombe, tel un groupe arrivé en retard à la cérémonie. Hunt se disait que quelques vers du défunt auraient peut-être été de circonstance, mais il n'était qu'un homme politique, peu enclin à lire et encore moins à mémoriser des pages de poésie ancienne. Il se souvint, trop tard, qu'il avait écrit quelques vers que lui avait dictés son ami la veille, mais il avait laissé son carnet sur la table de l'appartement de la Piazza d'Ispagna. Il y était question de devenir un dieu, ou comme un dieu, et du flot trop important des connaissances. Quelque chose de ce genre sans grande signification. Hunt avait une excellente mémoire, mais il était incapable de se rappeler le premier vers de ses élucubrations archaïques. Finalement, il se contenta de quelques instants de silence, la tête baissée et les yeux fermés, à l'exception de quelques regards obliques en direction du Gritch qui se tenait toujours à distance. Puis il jeta la première pelletée dans la fosse. L'opération lui prit plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Lorsqu'il eut fini de tasser la surface, la terre offrait une légère concavité, comme si le corps du poète était trop insignifiant pour former un monticule. Les moutons frôlèrent les jambes de Hunt pour aller brouter l'herbe haute, les pâquerettes et les violettes qui poussaient autour de la tombe. Si Hunt avait oublié les vers du poète, il n'avait aucun mal, par contre, à se rappeler la teneur de l'épitaphe que son ami avait souhaité avoir sur sa pierre tombale. Sortant le stylet, il l'essaya en traçant un sillon de 3 mètres de long dans la terre et les hautes herbes. Il dut piétiner en hâte le petit incendie qu'il venait de provoquer. L'épitaphe l'avait intrigué quand il l'avait entendu pour la première fois, murmuré avec effort par le poète à la respiration courte et sifflante. Mais ce n'était pas à lui de discuter avec un mourant. Il ne lui restait plus, à présent, qu'à graver l'inscription dans la pierre et à s'en aller, en évitant le Gritch, pour essayer de trouver un moyen de rentrer chez lui. Le stylet pénétrait un peu trop facilement la pierre et il dut s'entraîner un bon moment sur l'autre face de la stèle avant de trouver le bon angle et la bonne profondeur. L'effet final était tout de même quelque peu artisanal et irrégulier lorsqu'il reposa le stylet 20 minutes plus tard, après avoir terminé. Il y avait d'abord le dessin sommaire que Keats lui avait montré en traçant de sa main tremblante plusieurs esquisses sur du papier ministre. Cela représentait une lyre grecque dont 4 cordes sur 8 étaient cassées. Hunt, qui était encore moins doué en dessin qu'en poésie, n'était pas très satisfait du résultat. Mais c'était sans doute reconnaissable, à condition, naturellement, de savoir déjà ce qu'était une lyre grecque. La légende reproduisait fidèlement les paroles dictées par Keats. « Si j'y celui dont le nom était écrit dans l'eau. » Il n'y avait rien d'autre. Aucune date, ni de naissance, ni de mort. Pas même le nom du poète. Hunt recula d'un pas pour étudier son œuvre. Secoua la tête, désactiva le stylet, mais le conserva dans la main avant de reprendre le chemin de la cité, non sans faire un large détour pour éviter le monstre encore dans l'ombre des cyprès. Arrivé à hauteur du tunnel qui franchissait le mur d'Aurélien, il s'arrêta pour regarder derrière lui. Le cheval, toujours attelé à la calèche, s'était déplacé jusqu'au bas de la longue pente pour brouter l'herbe plus tendre au bord d'un mince cours d'eau. Les moutons erraient au milieu des fleurs, laissant leurs empreintes dans la terre meuble de la tombe. Le Gritch était immobile, toujours au même endroit, à peine visible sous les branches de cyprès. Hunt était presque sûr qu'il avait toujours les yeux fixés sur la tombe. L'après-midi était déjà bien avancé lorsqu'il trouva la porte d'Istrance, sous la forme d'un rectangle miroitant de couleur bleu foncé, bourdonnant juste au centre du Colisée en ruine. Il n'y avait ni plaque, ni colonne de commande. L'ouverture était opaque et invitait à passer de l'autre côté. Mais il n'y eut rien à faire. Hunt essaya 50 fois. La surface miroitante était aussi dure que de la pierre. Il essaya de passer un doigt, la tête, de se jeter dessus ou d'y lancer des pierres. Rien n'y fit. Il essaya des deux côtés et même sur la tranche. Ses épaules et ses avant-bras étaient tout endoloris. Il était sûr qu'il s'agissait bien d'une porte d'Istrance, mais elle refusait de lui livrer passage. Il fouilla les ruines du Colisée de fond en comble. Il explora les souterrains aux parois suintantes, au sol couvert de déjections de chauves-souris. Mais il ne trouva aucune autre porte. Il fouilla les rues et les immeubles voisins. Il alla de basilique en cathédrale, de taudis en appartement de luxe, de ruelles sordides en avenues somptueuses, sans résultat. Il retourna finalement sur la Piazza di Spagna, où il prit un repas rapide à la trattoria de l'immeuble, avant de monter récupérer son carnet. Puis il ressortit pour continuer ses recherches. La seule porte se trouvait au Colisée, et il y retourna finalement. Lorsque la nuit tomba, ses doigts étaient en sang à force d'essayer de la forcer à s'ouvrir. Elle avait bien l'aspect d'une porte, elle faisait le même bruit, elle avait le même toucher, mais elle lui refusait obstinément le passage. Une lune, qui n'était pas la même que sur la terre, à en juger par les tempêtes de sable ou de poussière et par les nuages visibles à sa surface, brillait au-dessus de la courbe noire du mur du Colisée. Hunt s'assit parmi les cailloux qui jonchaient le centre de l'arène et fixa des yeux, le front plissé, la porte qui émettait une lueur bleue. Derrière lui, il entendit les froissements d'ailes de pigeons apeurés et le bruit d'une petite pierre qui roulait. Il se leva lourdement, sortit le stylet laser de sa poche et attendit, les pieds légèrement écartés, scrutant les ténèbres encore plus opaques sous les cyprès et sous les arches et les multiples recoins du Colisée. Mais rien ne semblait bouger. Un bruit soudain, juste derrière lui, le fit sursauter. Il faillit balayer sans le vouloir la surface de la porte d'Istrance avec le mince pinceau du stylet. Un bras apparut au milieu de la porte, puis une jambe. Une personne émergea, suivie bientôt d'une autre. Le Colisée retentit alors tout entier des hurlements qu'il poussa. Mayna Gladstone savait que, malgré l'état d'épuisement dans lequel elle se trouvait, ce serait de la folie que de s'endormir, ne fût-ce que pour une demi-heure. Mais presque depuis l'enfance, elle s'était entraînée à faire des sommes de 5 à 10 minutes pour chasser les toxines de fatigue en donnant un répit à ses pensées. Épuisée au-delà de tout ce qu'elle avait jamais connu, sous le coup de la confusion vertigineuse qui avait marqué les dernières 48 heures, elle s'abandonna quelques minutes au confort moelleux du canapé de son bureau, vidant son esprit de tout ce qui était redondant ou superflu, laissant son subconscient retrouver son chemin à travers la jungle des pensées et des événements. Elle s'endormit et, durant son bref sommeil, elle rêva. Elle se redressa brusquement, écartant la couverture afghane ajourée, activant son persoc avant même d'ouvrir les yeux.
« C'est Deptra ! Faites venir le général Morpurgo et l'amiral Singh dans mon bureau d'ici 3 minutes !»
Elle passa dans la salle d'eau contiguë, prit une douche et un sonic, puis s'habilla. Elle mit, pour la circonstance, son tailleur le plus austère en velours noir de whipcord, avec une écharpe sénatoriale rouge et or, maintenue en place par une broche dorée, représentant le symbole géodésique de l'hégémonie. Elle porta aussi ses boucles d'oreilles datant de l'ancienne terre d'avant la grande erreur, et le bracelet en topaze avec persoc incorporé que lui avait offert le sénateur Byron Lamia avant son mariage. Puis elle retourna dans le bureau juste à temps pour accueillir les deux officiers de la force.
Hache présidente, cette convocation représente pour nous un contretemps fâcheux, commença l'amiral Singh. Nous étions en train d'analyser les dernières données en provenance de Mare Infinitus et de discuter des mouvements de la flotte en vue d'assurer la défense d'Asquith.
Gladstone fit apparaître sa porte d'Istrance privée et demanda d'un signe aux deux hommes de la suivre de l'autre côté. Singh regarda autour de lui tout en s'avançant dans les herbes dorées sous un ciel d'airain menaçant.
« Castrop Roxel, » murmura-t-il.
Le bruit courait, à une certaine époque, que le gouvernement avait fait construire ici en secret un terminal d'Istrans privé.
C'est sous le président Yevtchensky que cela s'est passé,
lui dit Gladstone en faisant disparaître d'un geste la porte d'Istrans.
Il pensait que le chef de l'exécutif devait avoir la possibilité de se retirer dans un endroit où le technocentre aurait peu de chances d'épier ses faits et gestes.
Morpurgo se tourna, mal à l'aise, vers un rideau de nuages qui bouchait l'horizon où la foudre en boule s'en donnait à cœur joie.
« Je ne sais pas s'il existe un tel endroit, » dit-il. « J'ai fait part de nos suspicions à l'amiral Singh et... »«
Ce ne sont pas des suspicions, » interrompit Gladstone. « Ce sont des faits. Et je sais maintenant où se trouve le technocentre. »
Les deux officiers réagirent comme si la foudre en boule venait de les frapper.
« Où ?»
demandèrent-ils presque à l'unisson. Gladstone se mit à faire les 100 pas. Ses cheveux gris coupés courts semblaient briller d'une lumière propre dans l'atmosphère chargée d'électricité.
« Entre les portes, » telle. Les IA vivent dans le pseudo-monde des singularités comme des araignées sur une toile noire. Et c'est nous qui leur avons tissé cette toile. »
Morpurgo fut le premier à retrouver sa capacité de parler.
« Mon Dieu, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Dans moins de 3 heures, le vaisseau torche, avec à son bord l'engin du technocentre, se distransportera dans l'espace d'Hyperion. »
Gladstone lui expliqua de manière précise ce qu'il convenait de faire.
« Impossible !» fit Singh en tiraillant machinalement sa courte barbe. « C'est tout simplement impossible. »« Peut-être pas, » fit Morpurgo. « Il nous reste suffisamment de temps. Cela devrait marcher. Les mouvements de la flotte ont été suffisamment désordonnés et aberrants au cours de ces 2 derniers jours pour que... »
L'amiral secoua la tête.
Logistiquement parlant, c'est peut-être possible. Mais rationnellement et éthiquement parlant, non, on ne peut pas.
Meina Gladstone se rapprocha de lui.
Kushwant,
fit-elle en l'appelant par son prénom pour la première fois depuis l'époque où elle était sénateur de fraîche date, et lui capitaine de frégate de la force spatiale.
Vous souvenez-vous du jour où le sénateur Lamia nous a fait entrer en contact avec les stables? Avec une IA dénommée Humon. Elle nous avait alors prédit 2 avenirs possibles. Le premier fait de chaos, et l'autre ne recelant que l'extinction certaine de l'humanité.
Singh détourna les yeux.
« Ma loyauté est acquise à la force et à l'hégémonie. »«
Votre loyauté n'est pas différente de la mienne, »
fit sèchement Gladstone.
« Vous la devez tout entière à la race humaine. »
Les poings de l'amiral se dressèrent, comme s'il se préparait à combattre quelque adversaire invisible mais puissant.
« Nous ne sommes sûrs de rien. D'où tenez-vous vos informations ?»«
De Severne. Le Cybride. »«
Cybride ?»
fit le général en reniflant avec mépris.
« Vous voulez dire ce peintre, ce minable qui se prend pour un artiste ?»«
Un Cybride, » répéta la présidente.
Elle donna rapidement quelques explications.
« Personnalité récupérée, »
grommela Morpurgo d'une voix sceptique.
« Et vous l'avez retrouvé ?»«
C'est lui qui m'a contacté. Dans un rêve. Il a réussi à communiquer de je ne sais quel endroit où il se trouve. C'était son rôle, comprenez-moi bien tous les deux. C'est pour cela qu'Humon l'a envoyé dans le Retz.
« Un rêve, » ironisa l'amiral Singh. « Et ce Cybride vous a dit, en rêve, que le centre se dissimulait dans l'espace interstitiel du Retz ?»«
Oui, »
fit Gladstone d'une voix ferme.
« Et il ne nous reste plus beaucoup de temps pour agir. »«
Mais, » murmura Morpurgo, « faire ce que vous suggérez, c'est... »« C'est vouer à leur perte des millions, sans doute des milliards de gens, »
acheva Singh à sa place.
Toute notre économie s'effondrerait. Des mondes comme TC Carré, le vecteur Renaissance, la Nouvelle Terre, les Deneb, la Nouvelle Mecque, l'Usus également, Arthur, et des dizaines d'autres dépendent d'autres mondes pour se nourrir. Les planètes urbaines sont incapables de survivre toutes seules.
Pas sous leur forme actuelle, peut-être, admit Gladstone. Mais elles peuvent apprendre à produire leurs propres ressources alimentaires jusqu'à ce que le commerce interstellaire puisse reprendre.
Pfff, soupira Singh. C'est tout ce que j'entends en ce moment. Jusqu'à la fin des hostilités. Jusqu'à ce que le gouvernement se ressaisisse. Jusqu'à ce que les gens cessent de mourir par millions de famines, de paniques, de manque d'équipement et de soins. De l'absence de l'infosphère.
J'ai déjà songé à tout cela. Fit Gladstone d'une voix que Morpurgo avait rarement entendue aussi ferme. Je serai désigné comme la plus grande criminelle de l'histoire. Plus grande que Hitler, que Tseu, que Glennon Height. Mais la seule chose qui soit pire, c'est de continuer ce que nous faisons en ce moment. Auquel cas nous deviendrons, vous et moi, messieurs, les plus grands traîtres envers l'humanité que l'univers ait jamais connue.
Nous ne pouvons pas en avoir la certitude,
grogna Kushwant Singh, comme si chaque mot lui était extorqué au prix d'un coup de poing dans le ventre.
Nous l'avons, affirma Gladstone. Le technocentre n'a que faire du Reds à présent. Les volages et les ultimistes se contenteront désormais d'exploiter quelques millions d'esclaves parqués sous terre dans les 9 mondes labyrinthiens, en utilisant uniquement leurs synapses pour les besoins qu'ils ont encore en ordinateur.
C'est ridicule, fit Singh. Un humain ainsi utilisé mourrait rapidement.
Meena Gladstone soupira et secoua la tête.
Le technocentre a mis au point un parasite. C'est un dispositif organique appelé cruciforme qui ressuscite les morts. Au bout de plusieurs résurrections, le porteur humain devient complètement abruti, sans conscience ni réaction personnelle, mais parfaitement adapté à l'usage auquel le destine le centre.
Singh leur tourna le dos une nouvelle fois. Sa petite silhouette se découpa contre un mur de clarté, tandis que la tempête se rapprochait dans un bouillonnement de nuages d'airain déchaînés.
C'est en rêve également que vous avez appris cela, Meena.
Oui.
Et qu'est-ce que vos rêves vous ont appris d'autre ?
Lança sèchement l'amiral.
Que le technocentre n'a plus besoin du Reds. Pas de la partie humaine du Reds en tout cas. Ils continueront d'y résider, comme des rats dans les murs. Mais ils n'ont plus besoin des habitants. L'intelligence ultime des IA prendra la relève en ce qui concerne les tâches principales de traitement des informations.
Singh se tourna subitement vers elle.
Vous êtes folle, Meena. Complètement folle.
Gladstone lui saisit vivement le bras avant qu'il pût activer la porte d'Istrance.
Je vous en supplie, Kushwant. Écoutez-moi lorsque je vous dis que...
Singh sortit un pistolet à fléchette de son uniforme d'apparat et le colla contre le ventre de Gladstone.
Désolé, H-présidente, mais je suis au service de l'hégémonie et...
Gladstone fit un pas en arrière en portant la main devant sa bouche. L'amiral Kushwant Singh avait cessé brutalement de parler, le regard fixé dans le vague durant 2 ou 3 secondes. Puis il s'était affaissé dans l'herbe, laissant rouler le pistolet à fléchette. Morpurgo s'avança pour ramasser l'arme. Il la passa à sa ceinture avant de remettre en place le bâton de la mort qu'il tenait encore dans l'autre main.
« Vous l'avez tué ?» fit Gladstone. « J'avais prévu de l'abandonner ici, sur Clastrop Roxel, en cas de refus de coopérer. »«
Trop dangereux !»
fit Morpurgo en traînant le corps à l'écart de la porte d'Istrance.
« Nous ne pouvions pas prendre ce risque. Ce qui va se passer dans les prochaines heures est trop important. »
Gladstone se tourna vers son vieil ami.
« Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ?»«
Il le faut. » C'est notre dernière chance de nous débarrasser du joug qui pèse sur nous. Je vais donner immédiatement les ordres de redéploiement. Ils seront remis sous scellés en main propre. La plus grande partie de la flotte va être impliquée dans l'opération.
Mon Dieu !
Fit Meena Gladstone en regardant le corps de l'amiral Singh.
Dire que je fais tout cela sur la seule foi d'un rêve.
Parfois, lui dit le général Morpurgo en lui prenant la main, les rêves sont la seule chose qui nous sépare des machines.